Mais plus on prend le rendez-vous tôt, plus on l'a tôt. Non, mais je le vois autrement. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, effectivement, c'est d'en discuter avec les enseignants et de continuer ce travail de collaboration. Moi bien sûr, des fois, je sens beaucoup de familles énervées, mais c'est une collaboration enseignant-parent. Il faut la travailler comme ça, il faut la voir comme ça, chacun ayant ses contraintes, etc. Et il faut avancer. Mais c'est vrai que si vous, le soir, vous considérez, et à juste titre, qu'on ne va pas rajouter trois lignes, hein, les faites pas. Enfin, voilà, mais ça, c'est pas ça qui fera qu'il échouera à l'école au final, quoi. Ça, vous inquiétez.
Alors, pour exemple, hein, déconnu, Mika parle quatre langues. Il est 10 à bloc, hein, c'est un grand musicien. Jackie Stewart, grand pilote de F1. Einstein, excusez du peu. On peut vous en dire jusqu'à demain. François Berléand, SECPA. Vous entendez bien, hein? François Berléand, SECPA. Il faut l'entendre parler de sa SECPA. Un de nos plus grands acteurs. Hein. Donc, il y en a des très intelligents, il y en a des moins intelligents, il y a des pluridis, il y a des troubles sévères, il y a des troubles moins importants. Et de toutes les façons, vous allez en baver pendant encore quelques années. Voilà, préparez-vous psychologiquement. Moi, il a 26 ans, quand il me téléphone, je me dis, pétard, qu'est-ce qu'il a encore fait? Voilà, bon, ça s'appelle du stress de mère. C'est logique.
Oui, madame, bonsoir à tous et merci pour vos interventions. C'est moi.
Excusez-moi, c'est juste parce
que j'ai le son qui est. Donc, en fait, je voulais essayer d'avoir en fait des outils pour un enfant en fait de 11 ans qui est dyspraxique avec un TDAH. 11 ans avec un trouble dyspraxique spatio-visuel avec TDAH. Et donc, pour avoir les outils par rapport à ces problèmes d'attention, il est déjà équipé de l'ordinateur, les enseignants appliquent bien les aménagements. Mais de l'autre côté, comment capter son attention quand souvent il est parti, quitte à déranger la classe? Alors, au secours.
Ouais. Alors, on s'éloigne du cœur du sujet, je comprends votre problématique.
Non, mais est-ce que des fois le numérique, je ne sais pas.
Alors, oui et non. Oui. Ne voyons pas les solutions magiques. Ça, je veux vraiment. Il faut être toujours très, très prudent. Quand il y a un gamin, on me dit qu'il a un trouble de l'attention et qu'il passe 2 heures sur la PS4, il n'a pas de trouble de l'attention. Il n'aime pas l'école. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est vrai, si on n'arrive pas à tenir en plaçant à l'école et puis qu'on arrive à rester concentré pendant 2 heures sur un jeu, il y a une dissociation, c'est pas normal. Quand on a un trouble d'attention, on l'a sur tous les aspects du quotidien. D'accord. Et donc, vous devez savoir ça. Même pour tenir un film au cinéma d'une heure et demie, c'est pas possible. Enfin, il y a des contraintes. Donc, je ne suis pas sûr que l'intérêt du numérique, c'est le côté motivationnel pour ce cas-là. C'est-à-dire que ça peut attirer. Et pour les troubles de l'attention, l'autre aspect qui est très intéressant, un truc tout bête, mais dès que c'est coloré, ça refocus l'attention. Vous voyez, le problème, c'est le fait que ça s'évade. Et donc, il faut reconcentrer. Et donc, c'est un truc tout bête, mais il y a des études. Alors, je ne suis pas sur-spécialiste de ça, hein, mais rien que si je mets un texte noir et blanc versus un texte en couleur, mes capacités attentionnelles pour un enfant qui a des déficits d'attention, il va être plus attentif sur le test en couleur. Pourquoi? Juste pour capter. D'accord. Donc, il y a souvent des choses qui sont très simples. Après, les troubles de l'attention, ça ne se soigne pas. C'est-à-dire que... Alors, je vais rajouter deux choses. Pour réduire les troubles, il y a pratique d'un instrument de musique. Ça augmente les capacités attentionnelles.
La concentration. Oui.
La pratique sportive,
pareil.
Ça augmente les capacités attentionnelles. Donc, vous voyez, c'est très éloigné du scolaire, mais ça augmente. Et il y a quelques travaux, je demande à ce qu'on soit réplié, enfin, je demande, mais ce qu'on va appeler tout ce qui va être la conscience, la pleine conscience, la méditation, c'est des choses que j'attends de voir si ça fonctionne. Enfin, il y a quelques résultats qui sont très, très encourageants. Mais vous avez des actions, si vous voulez, des choses qui vont être sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va commencer que 2 minutes après, c'est des choses qui vont prendre des mois. Mais, par exemple, je ne sais pas, s'il y a la possibilité de faire un instrument de musique, moi, c'est mon conseil, c'est souvent bénéfique. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent bénéfique.
Même avec la dyspraxie, les problèmes de la motricité fine.
Ouais,
et tout.
Ouais.
Mais au il faut éviter ce qui est pas trop avec les doigts. Il y a d'autres instruments.
Ce ne sera sûrement pas un grand soliste. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de l'amélioration. Donc, voilà, c'est vraiment, sans mettre une pression positivement, etc., je pense que... Enfin, c'est une des solutions. Hein, je n'ai pas la solution magique. Hein, vous l'attendez pas.
Le corps, beaucoup mieux que le piano. Voilà. On les met au corps, mais sans blague. Hein, les instruments avant, le corps, pour des enfants qui bougent beaucoup, marche très, très bien.
En fait, c'est sans
corniste. Mieux que harpiste ou pianiste. Il faut choisir ou que violoniste.
Mais c'est sans bouger beaucoup, c'est l'esprit qui part. C'est pas tant le fait d'être... c'est là-dessus.
Ça augmente. Ça.
Mais quand même, ça marche. Il y avait quelqu'un par là, non? Hop.
Bonsoir. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur... le lien entre les troubles posturaux ou proprioceptifs et les éléments mis en place par notamment le docteur Kersia, c'est-à-dire des lunettes à prisme, des aftes dans les dents, des semelles aussi orthopédiques pour, entre guillemets, même si vous n'aimez pas ce mot, soigner, entre guillemets, la dyslexie.
Merci de la question. Je voulais poser la même question. Pour éclairer ce qu'il vient de dire, moi, j'ai mon fils qui a ce problème-là, parce qu'on a tout étudié, mesdames, je vous comprends, les psys, les machins, les trucs. Personne ne savait ce qu'il avait, il n'était pas 10. C'est un problème de déficience posturale. Donc, je voulais savoir si vous aviez connaissance de ce phénomène-là et si vous l'y avez lié au problème de 10, parce que notamment, le miracle s'est accompli. Il a porté des lunettes et mis des semelles orthopédiques et il a écrit 100 fois mieux qu'avant. Ça n'a pas aidé pour tout le reste, hein, ça reste très compliqué. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez un lien entre ce trouble-là et tout ce que vous avez expliqué, parce que pour l'école et tout le reste, c'est un peu les mêmes problématiques. Et je voulais juste après préciser quelque chose sur ce que vous aviez dit, mesdames, le problème de la sensibilité et de la bienveillance. Mon fils, il rentre de l'école à chaque fois à la rentrée et il dit, maman, on me demande si je suis fort en maths, en français, tout ça. Moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est le prof. Donc voilà. Et souvent, c'est des enfants qui sont assez sensibles et qui, en plus des apprentissages, sont très, très liés à cette problématique de relation professeur à l'enseignant. Et comme on dit, les professeurs, ils disent, lui, il vient juste pour faire son cours, et puis moi, je n'aime pas cette matière cette année, mais peut-être que l'année prochaine, je l'aimerai. Donc tout ça, c'est très lié entre un problème purement physique, presque d'un phénomène de handicap, parce que des lunettes et des semelles, c'est technique, hein, ce n'est pas cognitif, et puis quelque chose d'affectif. Est-ce que vous faites le lien entre tout ça dans vos recherches?
C'est compliqué votre question. Vous êtes d'accord? On est d'accord qu'il y a plein de choses. Hein, okay, c'est juste. Moi, j'ai une position un tout petit peu différente, mais je comprends la vôtre en tant que mère. C'est que tous les gamins sont. Il n'y a pas besoin d'être 10 pour avoir une relation difficile ou très facile avec tel enseignant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas convaincu que ce soit plus. Tous les gamins sont dans cette affectivité, un peu plus ou moins forte, mais. Donc, mais c'est pour les 10 comme les autres, c'est simplement là-dessus. Donc, c'est une diapo que je n'ai pas montrée, où je suis passé très vite, si vous voulez, parce que je me suis dit, ça me prendra trop de temps. Mais une hypothèse, elle est partie, Margot? D'accord, mon étudiante en thèse était là, donc j'aurais bien voulu qu'elle vous réponde, parce que ça allait au taquet là-dessus, moi un peu moins, mais elle s'est sauvée au juste moment où j'avais besoin d'elle. Sur la gauche, on fait l'hypothèse que ces liens entre... Enfin, on fait l'hypothèse qu'une une hypothèse, d'accord, c'est des hypothèses, donc on attend de les prouver. Mais une hypothèse, c'est que l'origine des troubles qui expliquent la comorbidité viennent d'un dysfonctionnement du cervelet. D'accord ? Le cervelet, c'est ce petit machin dont on pensait qu'il nous servait qu'à tenir, pour ne pas tomber, quoi, avoir de l'équilibre. Et ça s'arrêtait là. Et depuis les années 2000, on a découvert l'importance dans la cognition du cervelet. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est des semelles, c'est des lunettes, c'est pas cognitif. Eh bien, pas si vrai que ça. Oui. Les semelles, c'est cognitif. Ce que je veux dire par là, c'est que sur les choses qui sont très hautes fonctions cognitives, il y a une activation de quelque chose qui est très proche du cervelet. Et donc, invariablement, pour vous donner un exemple, moi je connaissais, alors c'est de l'expérimentation très clinique, mais quelqu'un qui faisait d'exercices de conscience phono, donc ce que je vous ai expliqué, bas, fa, machin, des trucs compliqués, mais ça sur une planche où il y avait une boule dessous, vous savez, donc il faut en gros comme les surfeurs, quoi. Et donc, il trouvait que l'impact, alors ça n'a pas été testé expérimentalement, ça a été testé sur une vingtaine de gamins, donc pas assez, mais l'impact était plus efficace s'il mettait sur la planche qui bougeait que la planche sans boule en dessous, d'accord. Donc on est dans cette idée qu'on aurait sûrement, pour peut-être pas tous les troubles, je ne suis pas en train de dire tous, mais une partie, quelque chose qui est lié à une dysfonction du cervelet. Et donc des problèmes posturaux, des problèmes d'équilibre qui sont corrélés. Maintenant, je ne suis pas convaincu, je n'ai aucune preuve, que corriger les problèmes posturaux, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a un lien que corriger l'un, ça va corriger l'autre. Ça, je ne peux pas aller plus loin que vous dire qu'il y a un lien, mais je ne suis pas convaincu, moi, que les semelles, ça aide. Malgré tout, parce que peut-être ça marche, mais j'attends de voir expérimentalement sur une cohorte importante, etc. Vous comprenez ? Et ça, c'est pas nous. Mais l'hypothèse n'est pas aberrante. Voilà, elle est tout à fait plausible.
La proprioception a été étudiée, les Suisses ont travaillé là-dessus, et effectivement, il y a des liens, mais on manque de publications. Moi, j'ai l'habitude de dire que si ça marche et si ça les aide, c'est déjà ça de prix. Hein ? Voilà, alors là, c'est le côté pragmatique. On essaye. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des études où les astronautes, il aurait fallu qu'on demande à notre jeune là, qui est parti et qui est revenu, mais qui n'a pas de trouble cognitif au départ, probablement, sinon il ne serait pas monté là-haut, parce qu'il est brillantissime et qu'il a plein de choses qui fonctionnent très bien. Mais il y a eu des études qui prouvaient qu'ils avaient des troubles de syndrome de dysfonctionnement postural en revenant, parce qu'ils étaient restés en apesanteur. Et ça corroborait effectivement les études qui sont actuelles. C'est ce qui est dans l'air, là, mais il nous faut plus de chercheurs, plus d'enfants qui font... Je prêche pour votre paroisse, là, hein, c'est un maximum. Il faut qu'on avance au niveau des études, ça c'est une évidence.
Oui, excusez-moi pour tout à l'heure, pour ma remarque un peu désobligeante, mais c'est que ça me fait tourner le sang à chaque fois qu'on met tout sur le numérique. Je suis enseignante aussi au secondaire en physique-chimie. On est dans un établissement à projet de développement de tablettes numériques, donc je sais de quoi on parle. Et je lis des articles justement sur l'autisme numérique qui est en train de faire sortir de plus en plus. Les enfants passent trop de temps devant les écrans, que ce soit la télé, l'ordinateur, etc., etc. Et je pense que ce n'est vraiment pas une solution, encore moins pour ces enfants qui ont des problèmes cognitifs quand on en parle, et de développer justement, plus comme vous dites, de la musique. Donc là, j'étais encore contente de vous entendre dévier un peu ou agrandir votre panel, tout ce qui est la méditation, le yoga beaucoup. Il y a pas mal de solutions qui se font sur le brain gym, la gymnastique du cerveau, des exercices de motricité pour faire connecter le cerveau droit, le cerveau gauche. Après, il y a tout le côté aussi émotionnel. Alors, vous avez un petit peu fermé la conversation avec madame, mais enfin, moi, je suis fortement convaincue qu'un enfant qui sort dans un environnement de bienveillance, un environnement... pour pouvoir apprendre, se sentir bien, ça va être le lieu, ça va être les gens qui l'entourent, va pouvoir justement passer un peu au-dessus, progresser, développer ses apprentissages. Ça va stimuler en lui une émotion qui aide justement à avoir le bon comportement. Donc, comme vous dites, moi je pense qu'il faut vraiment varier tous les panels pour stimuler et qu'en aucun cas le numérique borné, comme ça peut être un petit peu présenté, est une issue.
Là, tu vas intervenir, mais je vais donner mon... Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les statistiques... Oui. Les statistiques, aujourd'hui, sont formelles. Il y a un problème avec les écrans qui éclaire l'hypophyse, c'est certain. On a des problèmes de sommeil. Mais il y a un problème avec la fée électricité qui, en 30 ans, nous a fait perdre 2 heures de sommeil. Donc déjà, on va revenir aux fondamentaux. Alors, moi, je suis vieille, je suis une mamie... J'ai du bon sens paysan. Je dis, les enfants, avec les mégapoles, avec l'électricité, avec trop d'écrans, on est bien d'accord, et de la télé comme des vaches devant, c'est pas bon. En revanche, si on fait intelligemment du numérique et si on dort bien, eh bien, il faut trouver un équilibre pour tout. Mais si on va dehors prendre l'air, si on fait du sport, si on fait du tir au laser, parce que moi, je peux vous dire que l'été, quand je les prends en stage, le tir laser, ça marche du feu de Dieu. Il faut trouver un petit peu de tout. Un enfant qui va à l'école à 8h du matin et qui rentre à 18h le soir, quand il est de la fin de l'année et qu'il est dyspraxique, eh ben, je peux vous dire que télé, pas télé, ordinateur, numérique ou pas, il est cuit et qu'il n'arrivera pas à avancer dans ses apprentissages, même s'il est avec un environnement bienveillant. Parce que déjà, d'un point de vue physiologique, ce qu'on lui demande est inadapté. Voilà, ça je l'ai dit, c'est la vieille qui a dit. Alors maintenant...
rapidement,
ouais,
parce que c'est plein de questions.
Ouais, ouais,
je... Sinon, on va t'enfermer dans le musée, la nuit au musée.
Donc, non,
mais... c'est bon ?
Trop de frustration.
Vite, vite, deux questions
bonsoir.
Encore. Voilà.
Bonsoir, moi je me permets d'intervenir parce qu'à côté de moi j'ai mon fils et d'entendre qu'un enfant qui est élevé dans un milieu bienveillant, ouvert, va être moins de 10, entre guillemets.
Non.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ce que je veux dire, c'est que mon petit garçon, il est là, il entend ça, il se dit « Ah bon, c'est que moi, je suis mal entourée, mal... » Et sincèrement, vous pouvez donner tout l'amour, tout l'accompagnement.
Ah, ben oui.
Il voit ergothérapeute, psychomotricienne, il est dyslexique, dyspraxique, voilà. Ben, Byron, tu peux le dire, je pense que tu es quand même heureux. Et ça m'insupporte d'entendre que... Enfin, voilà. Et c'est tout. Après... On n'a pas parlé de ce que devenait le 10 adulte. Et c'était ma question, c'est tout cet accompagnement pour les élèves 10. On est dedans, il a une AVS, il a tout ce qu'il faut, il est au collège. Mais après, voilà, moi c'est ma question. Est-ce qu'on peut faire le métier dont on rêve? Est-ce qu'on est accompagné adulte? Est-ce qu'on est compris? Est-ce que...
Aux États-Unis, ils sont recherchés.
Votre question, c'est laquelle? Enfin, ce que je veux dire, c'est... Les troubles vont se maintenir. Ça il faut pas vendre du rêve, faut pas vendre une. Les troubles vont se maintenir. Les conséquences peuvent disparaître ou quasiment. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est-à-dire les conséquences, par exemple sur l'écriture, etc. À force de travail, ça se réduit. Donc on peut même, il y a même, alors tout dépend après du degré de sévérité. Si je reviens sur mon truc, c'est là où c'est la variable, elle est. Oui, mais ce que je veux dire, la variable, c'est vraiment... Ah oui, donc, il y a deux...
On peut avoir une secrétaire. Hein. Mon fils travaille en ferronnerie d'art. Et il a dit, je me paierai une secrétaire. Eh ben voilà, ça fera bosser une secrétaire.
Mais ce que je veux dire, c'est que invariablement, mais comme pour tout élève, à un moment, il y a le principe de réalité. Si vous voulez, moi, je travaille aussi avec des enfants déficients intellectuels. À un moment, quand il me dit, je veux devenir vétérinaire, non, mais c'est pour donner un exemple un peu extrême, mais non, mais c'est pas pour ça que tu pourras pas travailler avec les animaux.
C'est
donc, il y a le principe de réalité pour tous les gamins du monde. Il y a le principe de réalité, c'est que moi, mon propos, c'est jamais de vendre du rêve. Les troubles resteront et il y aura des métiers beaucoup plus délicats que d'autres. Moi, j'ai travaillé avec un ingénieur qui a fini Renault ou Peugeot, je sais plus quoi. Qui est docteur en mathématiques, qui était dyslexique, très sévère. Il a travaillé trois fois plus que les autres, malgré tout, pour arriver à ce résultat-là. Mais c'est tout. Ah oui, c'est-à-dire, l'intégration sociale et professionnelle, elle est tout à fait possible. Et là, la variable, c'est l'environnement familial. Et ça, c'est très injuste, je vais dire. Mais elle est là, la variable importante.
C'est vrai.
C'est-à-dire que... le fait que... Mais le fait que vous soyez là, le fait qu'il y ait... Je suis très optimiste. Mais malheureusement, il y a des familles qui ne sont pas là, qu'on ne voit pas, qui va y avoir un diagnostic très tardif parce qu'on, il y a moins d'accompagnement. Et là, il y a plus de risques, par exemple, pour une sortie sans diplôme à 16 ans. Ça, statistiquement, c'est montré. Et la variable qui joue beaucoup là, c'est l'environnement familial. Je parle pour la France. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'injustice à ce niveau-là. Moi, je l'ai vu comme ça. Ça dépend de la catégorie socio-professionnelle des parents.
Oui.
Qui joue beaucoup.
Ça, c'est prouvé, c'est étudié.
Malheureusement, quoi. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'insertion professionnelle ordinaire. Il n'y a aucune raison, on va dire, cognitive. Ça, c'est... si vous voulez, officiellement, quand on regarde les pourcentages de handicap à l'université, le plus représenté, c'est les 10. Donc, on a une... On a beaucoup d'étudiants, beaucoup, comprenez-moi, on a une vraie... on a des étudiants 10 et qui réussissent leurs études. Il y a des aménagements, alors il y a plein de... Je ne vais pas rentrer. C'est pas top. On pourrait mieux accompagner à l'université encore.
Ça doit s'améliorer.
Mais là encore,
oui.
Ça change. Là encore, ça s'améliore. Entre il y a 5 ans et maintenant, l'accompagnement, il n'y a plus rien à voir à l'université.
Métier manuel, ça s'améliore, il n'y a pas trop de précision.
Et quand votre fils arrivera à l'université, ça sera super bien.
La ferronnerie pose pas de problème, la joaillerie est un problème. C'est ça la différence.
Oui.
Mais si c'est un métier manuel, de précision.
Je voudrais vous remercier déjà pour votre super intervention. C'est vrai que le pragmatisme, c'est bien, mais du coup, je m'en suis pris plein la figure ce soir. J'ai bien compris que ça serait ma fille, ça sera pour toujours. C'est la 4e, et sur les 4, c'est la seule, c'est la dernière qui a des soucis. Finalement, c'est une sorte de handicap qu'il va falloir vivre ensemble. C'est dur pour elle, c'est dur pour moi. Donc, merci en tout cas de m'avoir éclairée. Je viendrai vers votre association parce que je pense qu'il y a des tuyaux à récupérer. Et moi, ma véritable question, c'est comment est-ce que vous avez choisi les établissements scolaires pour faire vos expériences ?
J'ai pas si y a des gens du rectorat ici. C'est le rectorat. Donc c'est le rectorat qui a fait ce choix-là. Si vous voulez, on avait plusieurs critères, mais c'est vraiment le rectorat et c'est sur le volontariat des directeurs d'établissement. En gros, c'est sur ce point-là. Mais on a vraiment délégué cette partie-là au rectorat qui a géré l'interface entre nous et eux. Pas du tout, puisqu'on est un outil pour toute la classe. Donc nous, on veut être aléatoire. En gros, c'est un tirage au sort. On n'a pas ciblé. Et puis, il voulait un petit peu de tous les départements géopolitiques aussi.
Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question très pratique. Je suis enseignante en CE1, CE2. Je suis enseignante en CE1, CE2. J'avais une question, à quel moment l'application sera en service en fait ? Voilà.
Alors, l'application sera en service dans 20 mois, donc dans longtemps, c'est la première chose. Deuxième chose, soyons très clairs, on pourra arriver au bout en disant ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Je veux une nouvelle fois pas vendre de rêve. Nos propos, c'est on est en face, on va commencer à le tester, on va voir s'il y a un impact, un bénéfice, et un bénéfice qui se maintient, parce que juste 10 minutes après s'être entraîné, mais est-ce que 2 mois après, etc. Tout ça, les résultats vont être publiés. Peut-être qu'on le vendra, peut-être que tralalaire, il y aura quand même, mais nous, notre caution sur l'efficacité prouvée, ça, je peux pas. On est en phase. Donc ça fait quelques mois qu'on commence, le projet dure sur 3 ans, donc il y a un peu de temps. Quand vous l'aurez, prenez-le si ça marche, ça, jetez-vous dessus, c'est génial et ça. Mais vous avez plein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. Attendez pas. Non, à l'opposé, je dis attendez pas. Il y a plein de trucs qui existent.
Une dernière question, parce que on est au Musée Sainte-Croix, donc respectez aussi les horaires, les contraintes. Donc voilà.
Bonsoir, je suis enseignante spécialisée en IME. J'étais une fervente fan de l'extérieur, de la manipulation, de Montessori, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin du numérique. Mon public a changé depuis pas longtemps et les petits que j'ai, ils ont un handicap, une déficience mentale très lourde. Et je me suis rendu compte qu'avec les tablettes notamment, j'avais des résultats extra. Mais je continue d'aller dehors aussi. J'avais des questions par rapport au fait qu'avec la déficience mentale, on ne parle plus de ces troubles-là. Et pourtant, moi, j'ai énormément besoin de diagnostics plus profonds que juste la déficience et que j'utilise un nombre très important d'adaptations pour tous les apprentissages. Et aussi, ma question, c'était, est-ce que vous voulez pas une classe test pour le jeu ? Bon, en tout cas, est-ce que ça sera possible ? Bah oui, on sait jamais. Noël, c'était pas longtemps.
C'est quel IME ?
À Loudun.
D'accord. Ah ouais, non, c'est loin.
Je viens de Loudun ce soir. Hein.
Donc bravo. C'est possible. Bravo. Non. C'est une. Alors, je vais répondre à vos deux questions. La première d'entre elles, c'est, je l'ai dit d'entrée de jeu, et mais j'ai répondu, ce que je veux dire, c'est un, c'est un critère d'exclusion, mais deux, ça ne l'est plus. C'est-à-dire que sous pression d'une évolution anglo-saxonne qui est très communautariste, mais qui a donc des bons aspects, c'était vraiment, il n'y a pas de propos, c'est pas parce que je suis A que je ne peux pas être B. Et A et B, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi aussi, j'ai le droit d'être B. D'accord ? L'autre chose, là où je peux, je vais revenir un peu en amont, c'est que souvent, et ça, c'est mon expérience, donc vous avez jamais suivi des cours avec moi ?
Si.
Ah, d'accord, ok.
Donc j'ai pas parlé de la formation, du coup.
D'accord. Non, mais souvent, ce que je peux essayer de dire, c'est que les outils pour un sont aussi bénéfiques pour les outils pour l'autre. Donc, là, une nouvelle fois, si on pense, je pense à un truc de base qui a été démontré, la conscience phono, les entraînements en conscience phono, ils vont marcher pour les 10, ils vont marcher pour les déficients intellectuels. Et on va travailler pour les deux. Et comme ça, on ne prend pas de risque, d'accord ? On multiplie. Donc, ce que je pense, c'est qu'une nouvelle fois, je ne suis pas convaincu que l'étiquetage que vous attendez, il serve à grand-chose.
Ce qui me manque surtout, c'est au niveau des troubles neurovisuels et dyspraxie. Là, il faudrait des choses un peu plus spécifiques quand même. Parce que sur dyslexie, dyscalculie, j'en ai pas spécialement besoin.
Okay, vous avez raison.
Mais c'est vrai qu'après, il y a des choses plus fines. On me dit, mais non, c'est déficience intellectuelle. Donc on fait un paquet.
Non, vous avez raison. Mais vous avez totalement raison. Et je peux que vous aller dans votre sens. Et je ne pourrais pas aller à l'IME de Loudun. Une nouvelle fois, ce n'est pas moi qui décide. C'était juste une petite blague, dire que c'était loin. Et puisqu'on va beaucoup plus loin que ça, on va à La Rochelle et à Rochefort. Et puis même bientôt à Rennes. Donc on ne pilote pas ça. Mais vous pouvez toujours vous rapprocher de votre nouvelle UNASH, que je ne connais pas encore, et qui pourra peut-être faire le forcing au niveau du rectorat.
Voilà, bon, la dernière question. Voilà ce que je suis...
La dernière, rapide.
Bonjour, nous nous questionnons sur le dosage entre justement l'écriture, l'acte d'écrire, et l'utilisation de l'ordinateur.
D'accord.
Voilà, vous, concrètement, en tant qu'enseignant, en tant que parent, vous parliez de à l'extrême, justement, dans une optique de rééducation éventuelle, de maltraitance, puisqu'on peut demander quelque chose d'incohérent et d'impertinent, enfin de non pertinent plutôt. Et l'utilisation de l'ordinateur.
C'est une question absolument passionnante et sur laquelle j'ai essayé de travailler. Donc j'ai quelques éléments de réponse. Tout dépend de l'âge. Cette balance entre les deux dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Ce que je veux dire.
8 ans.
Pardon ? Non, mais alors je vais faire une réponse un peu plus générale, si vous me permettez, juste. Je trouve que souvent l'introduction de l'ordinateur en termes d'outils d'écriture. Parce que l'ordinateur, c'est pas un problème. Hein, je parle bien de l'ordinateur en tant qu'outil d'écriture, hein, est trop précoce. Et donc, on peut retarder ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire des lignes. Je veux dire, c'est pas parce que. Et n'oublions pas que quand on travaille le clavier, c'est aussi une contrainte motrice. Donc, c'est pas ça marche et ça y est, je vais super vite. Non, c'est compliqué. Donc, je pense, pour moi, la transition, c'est vraiment le collège. Tant qu'on est en primaire, je pense que l'écriture, c'est mon point de vue, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ça, mais que l'écriture doit rester manuscrite en primaire. Et qu'au collège, on peut commencer à doser une écriture numérique, enfin une écriture dactylographique, parce que de toute façon, c'est un métier. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas aller trop vite. C'est ça, je ne veux pas être extrême. Peut-être c'est une borne un peu ridicule que je suis en train de donner, mais le dosage, c'est que plus on est jeune, plus la priorité doit être, à mon avis, donnée à l'écriture manuscrite, parce que c'est là où on a quand même plus de flexibilité mentale, de plasticité cérébrale, où les apprentissages vont être plus rapidement engrammés, et qu'on va avoir le plus d'impact sur l'écriture, mais rédactionnelle, et la compréhension en lecture. Plus on va attendre, moins cet impact va être fort, et donc plus on peut le négliger. D'accord ? Et donc, le collège devient ce moment où on va pouvoir vraiment basculer vers 6. Si ça convient, je ne veux pas donner aussi une réponse automatique et généraliste pour tous les gamins, quoi, mais si ça convient, de passer plus sur l'ordinateur. Et voilà, quoi, c'est tout. Mais de toute façon, parce que aussi, le clavier est un outil pour apprendre à coder, pour apprendre... Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'un outil d'écriture, donc il faut aussi... C'est une maîtrise... C'est un apprentissage social pour tous, quoi, le clavier. Donc il faut aussi que ça soit appris.
Merci.
À la Merci à tous, bon retour, au revoir.